France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Deux poètes sont en exergue des deux livres que nous évoquons aujourd'hui. D'un côté, Mahmoud Darwish, le grand auteur palestinien mort en 2008. De l'autre côté, Ocean Vuong, poète vietnamien, essayiste et romancier, récemment traduite en français par Marguerite Capelle et dont les textes émeuvent par ici. J'aime à penser un book club de cette espèce, des livres qui se citent, qui s'admirent, qui s'augmentent et qui se répondent. Unité de lieu aujourd'hui pour votre book club, ce serait l'île Maurice, mais ce serait trompeur tant il est question de migration et de déplacement dans les deux livres que nous réunissons. Natacha Apana vient nous parler de Mémoire délavée, paru au Mercure de France, et nous serons rejoints par Ananda Devi. Au téléphone, elle publie Le jour des caméléons chez Grasset. En fin d'émission, le mercredi, c'est Lecture jeunesse. Mathilde Wagman vagabonde aujourd'hui côté histoire naturelle, et puis on se quitte en chanson. Grâce à vos trouvailles de lecture et au grand jeu des pages musicales, vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Natacha Apana.
Bonjour Marie.
Soyez la bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver à ce micro. La mémoire délavée apparue dans cette grande collection et belle collection 13 et portraits au Mercure de France. On rentrera plus profondément dans ce livre tout à l'heure. Mais tout commence ici par un questionnaire de lecture pour imaginer que vous êtes d'abord et avant tout une lectrice. Est-ce que vous vous souvenez avoir appris à lire ?
Non, pas vraiment. Mais je me souviens de lire, de finir quelque chose et que mes parents en soient étonnés. Je me souviens, ils m'emmènent à la bibliothèque et ma mère, qui est institutrice, me choisit ce qu'elle appelle des petits livres.
Okay.
Je ne sais pas si c'est des petits formats ou je ne sais pas ce qui...
Ou des livres pour les petits.
Oui, mais elle appelle les petits livres. Et en réalité, je crois que c'est des contes de fées. Et donc, on monte dans la voiture. Et au milieu du chemin, je dis « j'ai fini ». Et ils me regardent tous les deux, et un peu étonnés et un peu dépités de devoir faire marche arrière.
Ah, donc finalement, la lecture, le premier souvenir de lecture, qui est quand même assez précis, Natacha Apana, c'est de, ouais, prendre de cours vos parents.
Oui, mais je crois que c'est un souvenir qui est mêlé à plein de choses. J'adorais être dans la voiture de mon père, j'adorais faire des balades, j'adorais ce chemin-là en particulier, qui est un chemin qu'on pourrait appeler, enfin qui est une route qu'on pourrait appeler une route napoléonienne, parce qu'elle était bordée de grands arbres, avec des trouées de lumière, des trouées d'éclats de rouge même. Et cette bibliothèque qui était toute petite, mais qui sentait très bon. Donc c'est mêlé à plein de choses, à un moment extrêmement agréable pour moi.
Presque merveilleux.
Oui, absolument. Absolument. C'est merveilleux. J'aime à penser que c'est merveilleux aussi parce que mon frère n'est pas né et que je suis encore fille.
C'est très possible.
Et que je suis encore fille unique et que je vois très bien là mes parents devant qui se retournent tous les deux.
Et personne,
c'est égoïste,
personne pour vous déranger.
Oui.
Est-ce que vous avez un rapport comme ça, merveilleux ou égoïste, Natacha Apana, aujourd'hui avec la lecture ?
Ah, j'ai un rapport multiple à la lecture, à la fois merveilleux, à la fois égoïste, à la fois très partageur. J'aime beaucoup lire, parler de ce que je lis. J'aime beaucoup qu'on me parle de ce que les autres lisent. Je suis très curieuse de savoir ce qui se lit, ce qui s'écrit, comment ça s'écrit, comment ça se lit. J'ai un rapport, je dirais, quotidien à la lecture. Et comme le quotidien est multiple, mon rapport à la lecture est multiple.
Vous êtes-vous un jour à ce point attaché à un personnage dans un livre lu que vous auriez aimé l'avoir pour ami ?
Mais plein !
Lesquels ?
Plein, plein. Déjà, Jenny, j'aurais aimé l'avoir pour amie. J'aurais aimé avoir Cordélia de Shakespeare dans Le Roi Lear pour amie.
Ah oui ?
Vraiment.
Alors, faut dire qui est Cordélia quand même.
Ah,
quelle est sa position toute particulière par rapport
à Roi Lear ? Sa position de Benjamin qui dit ce rien. Nothing. Et moi, j'avais...
Elle dit nothing, soyons enfin, plus généreux. Donc, quand on lui demande, on demande aux enfants du roi Lear de venir dire leur amour pour leur père.
Voilà, et les deux aînés voilà, font des monologues, des soliloques sur leur amour, et elle dit rien. Et son père lui dit « Comment rien ?» Et elle dit « Non, rien. » Alors j'ai oublié exactement, je le connais un peu en anglais. Mais je rêvais devenir son amie parce que je rêvais qu'elle n'ait pas le destin qu'elle a dans cette pièce de théâtre.
Un peu une Antigone, est-ce que vous diriez que ce serait
Antigone
aussi copine, bande de copines, Antigone,
voilà,
Cordelia.
Absolument, vous m'avez cerné. Antigone aussi, ce serait une merveilleuse amie.
Est-ce qu'il y a un livre que vous auriez aimé lire à 20 ans, ou plus précisément, est-ce que là, aujourd'hui, avec la personne que vous êtes, Natacha Apana, vous trouveriez bon d'offrir un livre à celle que vous étiez à 20 ans, qui lui ferait du bien, qui lui proposerait un chemin, qui serait une bonne lecture pour elle?
Oui, je crois que j'aurais aimé lire Le dernier des Shekel, qui est un livre d'une autrice mauricienne qui raconte l'histoire des Juifs qui sont arrivés en 1940 à l'île Maurice. Je dis que j'aurais bien aimé lire ça quand j'avais 20 ans, parce que je suis une passionnée des conflits mondiaux, je suis obsédée de ça, de comment les hommes asservissent d'autres hommes. Et il se trouve que cette histoire est arrivée sur mon pays natal, sur mon île natale, mais que moi je l'ai su très tard. Je l'ai su à 25-26 ans, je crois. Et j'aurais aimé qu'on m'offre ce livre quand j'étais adolescente.
Qu'est-ce que ça aurait changé que vous ayez connaissance de ce fait historique dans votre vie?
J'ai toujours pensé que je suis née sur une île, dans un pays qui était étranger à la Deuxième Guerre mondiale, au deuxième conflit. Je me suis dit, voilà, c'est une histoire qui s'est passée hors de nous. Quand je dis nous, c'est les
Mauriciens,
exactement, hors de nous. Et c'est toujours une histoire qui m'a semblé très loin de moi. Et je pense que si... Par exemple, quand j'étais en cours d'histoire à l'école, au collège, si le professeur nous avait dit, vous savez, vous pouvez aller dans un lieu qui était, avant c'était le cimetière de Saint-Martin, où il y a 126 tombes juives, s'il nous avait dit ça, alors que c'est un chemin qui est très emprunté, parce que c'est un chemin qui mène à une très belle plage. Donc vraiment, je l'ai emprunté des milliers de fois, dans cette même voiture dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça aurait changé complètement la manière dont plus tard j'ai lu Primo Levi, plus tard j'ai lu Schwarzbart, plus tard j'ai lu Robert Merle.
Comme une histoire lointaine.
Exactement, j'ai toujours lu ça comme bien sûr ça me regarde, mais ça me regarde en tant qu'être humain, ça me regarde, mais ça ne être j'avais l'impression que
La géographie jouait contre vous, quoi, contre une possibilité de se sentir.
Oui, ma terre natale, elle était étrangère à cela, et en réalité, non.
Est-ce que vous avez une connaissance fine, précise, ou comment est-ce que vous la qualifieriez, de la littérature mauricienne?
J'ai une connaissance, aujourd'hui, un peu dispersée de la littérature mauricienne. Alors, ça dépend ce qu'on veut dire par littérature mauricienne.
Je ne sais même pas ce que je veux dire moi-même par littérature mauricienne.
Parce que je pense qu'il faut d'abord définir ce que c'est la littérature mauricienne. Est-ce que...
Je lisais même un article qui parlait de la difficulté de parler d'un champ littéraire mauricien, qui s'intéressait même à l'idée même de pouvoir utiliser ce mot-là comme champ littéraire.
Oui. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a un moment, il y a 15 ans, 20 ans, je crois, où justement ce mot champ littéraire mauricien était un peu lancé à droite à gauche, parce qu'il y a eu beaucoup de Mauriciens qui ont édité en même temps dans des maisons d'édition françaises. Mais si vous lisez les auteurs mauriciens, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Nous sommes une île créole, avec des inspirations très diverses, des obsessions multiples. Donc je dirais que c'est assez dispersé. Et aujourd'hui, j'ai la franchise de dire que je ne lis pas les auteurs parce qu'ils sont mauriciens. Je lis les auteurs parce qu'ils me plaisent, parce que ce dont ils parlent me travaille, m'obsède. Donc il y a plein d'auteurs que je ne lis pas, et il y a plein d'auteurs que je lis. Et je ne crois pas que la fidélité, elle se juge à cela.
Est-ce qu'il y a un livre qui vous attend, Natacha Apana, avec lequel vous auriez rendez-vous? C'est quoi ce sourire?
Parce que j'ai écouté vos émissions et je me suis dit, qu'est-ce que je vais répondre? Et en réalité, je vais répondre de manière un peu égoïste, comme nous avons commencé cette émission, parlant de moi comme étant fille unique. Le livre qui m'attend, c'est le livre que j'ai envie d'écrire.
Et pourquoi pas? Pourquoi pas voilà. Le dire que c'est finalement ça qui vous attend le plus?
Oui, c'est le livre fantôme, c'est le livre... J'ai l'impression de tourner autour, je ne sais pas si ce sera le prochain ou celui d'après. En tout cas, quand vous mettez le verbe « attendre » à côté d'un livre, c'est à ça que je pense.
Alors si je précise un tout petit peu ma question, à quoi vous voyez qu'il s'approche? Comment est-ce que vous voyez qu'il s'approche ce livre fantôme, quand il s'approche?
Parce que j'y pense tous les jours, et qu'il n'y a pas longtemps, je me suis dit « tiens, c'est peut-être la première phrase ». Donc je me dis, tiens, pas si fantôme que ça finalement.
On va entrer dans le livre, pas fantôme du tout puisqu'il est publié, mais il emporte des fantômes à travers ce disque-là.
Chombolina pa quité, chombolila, chombolila, chomboli, chombolina pa lagué, chombolila, chombolila, chomboli, chombolina pa quité, chombolila, chombolila, chomboli, chombolina pa lagué. Moche na mochi fam na mulaka, moche na mochi fam na mulaka, moche na mochi fam na mulaka, zuli trap moi batté. Moje na mochi fam na mulaka, tous les jours li trap moi batté. Soleil levé li bat moi mama, soleil couché li bat moi. Soleil levé li bat moi mama, soleil couché li bat moi. Me chomboli la, chomboli la, chomboli chomboli na pa quitté. Chomboli la, chomboli la, chomboli chomboli na pa langé. Chomboli la, chomboli la, chomboli chomboli na pa quitté. Chomboli la, chomboli. Chomboli, chomboli, n'a pas lagué. Prête-moi ou bat tomber le madame. Prête-moi ou bat tomber le madame. Prête-moi ou bat tomber le madame. Fais à mon mouton sodilo. Prête-moi ou bat tomber le madame. Prête-moi ou bat tomber le madame. Prête-moi ou bat tomber le madame. Fais à mon mouton sodilo. Chomboli là, chomboli là. Chomboli, chomboli, n'a pas quitté. Chomboli là, chomboli là. Chomboli, chomboli, n'a pas lagué. Chomboli. Chomboli, chomboli, n'a pas quitté. Chomboli, 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 n'a pas quitté. Chomboli, chomboli,
Fafa, que nous étions grand frère. Hein? Tu dis? Chombo? Chomboli, là.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Parfois, c'est une phrase et pas une autre pour le dire, pour évoquer les nombreux accouchements de votre grand-mère tout au long du XXe siècle, toute seule, accroupie sur une toile de jute. Vous avez cherché une autre façon de rendre l'image, Natacha Appana, mais c'était ça, seule, accroupie, sur une toile de jute. Dans votre récit « La mémoire délavée » paru au Mercure de France dans la collection 13 et portraits, vous rêvez, je cite, d'un livre qui dirait le passé, le présent et tout ce qu'il y a entre, un livre qui marquerait la fin de l'exotisme. De fait, l'histoire de l'engagisme, ces hommes et ces femmes venus combler par centaines de milliers le manque de main-d'œuvre dans les champs de canne des colonies après la libération des esclaves, et ceci pour presque rien, vous la faites au plus près des êtres, au plus près par exemple d'un ancêtre arrivé sur l'île Maurice en 1872 avec femme et fils, au plus près des numéros qu'il portait. Même le noir de la mer, le bleu de l'île et le vert des champs de canne, couleur de leur voyage migratoire, vous fait craindre un autre exotisme. Ce sera le noir et blanc des photos et des archives, le délavé des récits, l'imparfait des documents, la peur et la fascination pour l'eau, la grâce d'un vol d'étourneau. Natacha Appana, l'engagisme était déjà là dans un premier roman, mais du côté de la fiction, vous racontez que finalement avoir forgé votre écriture dans la fiction vous permet d'arriver au seuil de ce texte avec la distance, l'endroit juste pour écrire autrement l'histoire. Alors comment c'était là, dans ce roman qui existe aujourd'hui en poche, Les Rochers de la Poudre d'Or, et comment c'est transformé dans le récit d'aujourd'hui ?
Les Rochers de Poudre d'Or est un roman que j'ai écrit, publié en 2003. Et pour moi, c'est une œuvre de fiction entière, pleine, sur cinq personnages, cinq Indiens qui quittent l'Inde et qui prennent un bateau pour arriver à l'île Maurice. Je ne pense pas à mes parents, je ne pense pas à mes grands-parents. J'ai presque envie de dire, je ne pense pas à moi-même. Cette histoire est tellement, et du pain béni pour un romancier, parce que il contient tous les ingrédients d'un grand roman d'aventure, avec un village perdu, la traversée à pied, la montée sur un bateau, les semaines en cale, les rencontres absolument incroyables qui ne pourront pas se faire en Inde, la transgression des tabous, l'arrivée sur une île avec des couleurs. Vraiment, ça...
Vous allez vers le romanesque, vous frottez les mains de tout ce romanesque à l'époque.
Absolument, et je m'y... Je nage dedans, je m'amuse, je trouve ça formidable de disposer comme ça de cette matière-là. Et comme c'est une histoire que je situe en 1892, et que moi, à cette époque, j'ai l'impression que mes ancêtres sont arrivés au début du XXe siècle, donc ça ne me... Voilà.
Encore une fois, c'est une autre histoire. C'est une histoire loin de vous.
Loin de moi. Évidemment, après, de livre en livre, d'année en année, je me rends compte que je suis travaillée par le balancier de l'histoire, que je raconte souvent des histoires, en tout cas, que je suis portée vers ça, tournée vers ça, des histoires d'hommes qui sont, comme je disais... dominé par d'autres hommes, des bateaux qu'on prend pour aller dans d'autres endroits, des hommes qui construisent ces bateaux-là, du besoin de garder près de soi quelque chose d'avant, mais de ce désir impérieux d'être maintenant ici et pas avant ni après. Et donc sa place, son identité. Et donc, il ne m'échappait pas depuis plusieurs années, là, que, en réalité, ce serait intéressant de creuser ces obsessions-là à l'aune de mon histoire, ma vérité, en réalité, ce que j'imaginais être ma vérité, parce que j'avais à ce moment-là compris que mes ancêtres étaient arrivés bien, bien plus tôt, 1872, et quand un engagé, arrive en 1872, c'est vraiment les débuts de l'engagisme. Donc ça veut dire vraiment des conditions de travail très compliquées. Alors que moi, j'avais imaginé un ancêtre un peu propre, vous voyez, sortant des cales, pas bien habillé, mais
la fameuse mémoire lavée, vous les aviez lavés, ces ancêtres, coiffés, habillés autrement presque.
Voilà, je savais qu'ils avaient travaillé les champs, mais pas, j'ai presque envie de dire, pas à ce point-là, pas comme ça.
Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans le livre, on voit aussi apparaître peut-être des pointes de récit dans un iceberg de silence, des indices, même si vous racontez peut-être toute la complexité de faire avec la transmission orale, des choses dites ou pas dites, il y a quand même des petites choses qui vous ont mis sur un chemin, Natacha Apana, le chemin de l'écriture, plus du côté du récit, de la vérité que vous évoquez là. Qu'est-ce qui est l'élément déclencheur? À part l'invitation, j'imagine, de Colette Fellous et Isabelle Gaillemard dans 13 et portraits.
Je crois que l'élément déclencheur de raconter mes grands-parents, c'est quelque chose que j'ai, qui est né sur l'île de Mayotte il y a plusieurs années. J'y avais vécu 2 ans et j'y étais retournée pour préciser 2-3 choses. J'avais terminé mon livre, je croyais l'avoir terminé d'ailleurs.
Tropique
de la violence. J'allais le terminer et je voulais préciser 2-3 choses. Et c'était sur une plage et il y avait un kwasa qui était arrivé avec des gens et notamment des vieilles personnes. Et c'est assez, je sais pas l'adjectif. En fait, Marie, je ne sais pas quoi, je n'ai toujours pas trouvé l'adjectif qui correspond à ce que je regardais. Est-ce que c'était terrifiant?
Dans les vieilles personnes, vous voulez dire?
Non, dans l'image même de ce qui arrivait, des personnes qui descendaient, les pompiers, les flics, tout ce chaos et en même temps la peur sur les visages et tout. Et ces vieilles personnes-là m'ont fait penser à mes grands-parents.
Immédiatement.
Et c'était étrange parce que moi j'étais vraiment de la tête aux pieds dans Tropique de la violence et mes parents viennent à moi, si vous voulez, comme un souvenir assez tendre, mais sur le bateau. Et je pense que c'est à partir de cela où je me dis, il faudrait que leur visage soit quelque part, que leur trace soit écrite, que je fasse quelque chose de cette existence non imaginaire.
Non imaginaire et qui pendant longtemps se croyait non nécessaire d'être écrite. Vous racontez très bien, Natacha Apana, qu'il faut avoir conscience de l'importance de sa vie pour imaginer qu'il est important de dire des dates de naissance, des dates de mort, pour dire là où se trouvent les quelques documents, même pas beaucoup, pour laisser une trace inscrite dans le monde quand tout un système de colonisation, d'organisation d'une quasi-traite du travail vous fait penser et transmet peut-être aux générations suivantes que c'est des vies de peu, de suffisamment peu pour n'avoir pas de destin dans la mémoire, Natacha Apana. Il y a aussi quelque chose qui se retourne dans votre texte La mémoire délavée, qui est toutes les vies, elles sont dignes d'être inscrites, même quand il n'y a que quelques traces.
Oui, vous avez absolument raison, mais en réalité, c'est pas à nous de décider. Nous ne décidons pas quelle existence sera restera après nous. Et il faut dire que je crois que dans les récits de migration, dans les histoires de migration, les creux, les absences, les silences sont des choses très communes. Et il y a une frustration qui naît de cela, la frustration de ne pas savoir exactement. Et moi, cette frustration-là, elle n'était pas du tout présente quand j'ai été éduquée, que j'ai grandi à l'île Maurice. Elle n'était pas du tout présente. C'est une frustration que tout le monde connaît. Personne ne m'a jamais posé la question, mais ton grand-père, il est arrivé en quelle année? C'était l'exactitude n'était pas nécessaire. En revanche, quand je suis arrivée en France et que j'ai fait mes études ici, et que j'ai grandi ici, etc., on me parlait souvent de l'exactitude des choses. Et moi, j'essayais de légitimer, si vous voulez, la non-exactitude.
Le je ne sais pas.
Le je ne sais pas. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas quand il est arrivé ou alors ce qu'il ressentait, comment il était, quel était son caractère. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas cela, on ne connaît pas le nombre d'enfants qu'il a eu, qu'il n'en vaut pas la peine, qu'il n'a pas existé, comme dirait Rilke, avoir été une fois, rien qu'une fois. Et je me retrouvais toujours face à une sorte d'interrogation. Mais tu ne sais pas ? Mais comment ça se fait que tu ne sais pas ? Eh bien non, je ne sais pas. Et même plus proche de moi, par exemple, ne pas savoir combien d'enfants exactement a eu ma grand-mère, et même mon père ne le sait pas. Donc, et je crois que c'est des choses aussi de l'ordre de la pudeur, énormément entre les personnes où aujourd'hui on pose beaucoup de questions à nos parents, les enfants, voilà, les choses sont plus ouvertes. Je crois que moi, je n'aurais jamais eu le courage de lui demander exactement combien d'enfants.
Vous utilisez ce mot-là, il se trouve que c'est aussi le mot qu'utilise Cyril, un auditeur lecteur qui vous a adressé une question par la voix de la communauté du Book Club.
Bonjour le Book Club, bonjour Natacha Appana. J'ai lu votre livre en rentrant de ma première longue immersion à l'île Maurice, le pays natal de ma femme, et j'étais surpris de voir à quel point cela faisait écho, non pas tellement à son histoire et à l'histoire de sa famille, mais au silence, aux réponses elliptiques, aux zones d'ombre, on va dire, de flou, que vous décrivez si justement avec beaucoup de sensibilité dans votre œuvre. Et je m'interrogeais justement sur cette façon que vous avez très pudique d'aborder les choses dans ce livre-là précisément. Et j'aurais aimé savoir d'où venait cette pudeur dans l'écriture que vous observez cette fois-ci. Est-ce que c'est par rapport au sujet que vous abordez? Est-ce que c'est lié à cette écriture bien plus autobiographique? Est-ce que c'était quelque chose de délibéré? Ou est-ce que venu instinctivement, on va dire, au fil de l'écriture?
Merci beaucoup à Cyril pour sa question, Natacha Appana. Je vous laisse lui répondre.
Oui, c'est merci pour cette question. J'ai quand j'ai commencé ce récit, vraiment de manière extrêmement naïve, alors que ce n'est pas du tout comme ça que je travaille, ni comme ça que je pense de manière générale, je pensais que ce serait facile. Je me disais, voilà, tu sais les choses, ça devrait...
Il y a des archives.
Oui, ouais, ça devrait bien se passer. Et j'avais une intention de forme qui était très précise. Je voulais faire un grand poème. Et donc, j'ai commencé ce poème-là. J'ai dû écrire 20, 25 pages de ce poème et ça ne marchait pas. Ce poème était un moule. Ce poème était une autre plantation. Ce poème était une autre prison dans laquelle j'essayais de faire rentrer... toute cette histoire, la grande et la petite, et donc j'ai essayé d'autres choses. Peut-être 3-4 mois ont passé jusqu'à ce qu'un soir, de ma fenêtre, je vois un vol d'étourneaux. Je me souvenais que c'était des oiseaux migrateurs, et je me souvenais d'avoir lu un article qui disait que entre eux ils se murmuraient des choses, et que le murmure faisait figure, faisait ballet, faisait danse, mais que ce murmure n'avait aucune intention, aucune ambition, sauf celui de trouver un endroit au chaud et de se nourrir. Et j'ai commencé à raconter ça et à faire le parallèle avec mes propres ancêtres et qui avaient migré et cette propre histoire qui m'échappait. Et je me suis rendu compte en écrivant par dépit vraiment ce chapitre, en me disant mais vraiment, toutes ces journées à ne rien écrire, ça va plus du tout, il faut que t'écrives quelque chose. En écrivant ce ballet et en disant de manière claire combien ce murmure-là, ce murmure personnel, familial m'échappait, en disant ça de manière simple, claire, un peu je dirais, dans le creux des choses, je me suis rendu compte que j'avais attrapé quelque chose de la manière dont mes grands-parents me racontaient les histoires, ou dans la manière dont ils ne me racontaient pas les histoires. Voilà. Donc, il y a eu là comme une écriture très proche du cordeau, du fil nu, qui s'est installée, et j'ai continué comme cela.
C'est intéressant parce que la question de Cyril sur la pudeur et votre réponse qui va jusqu'à la phrase au cordeau me fait venir à cette phrase que je crois beaucoup d'entre nous et qui vous ont lu, Natacha Apana, relève, c'est-à-dire cette femme qui accouche seule, accroupie, sur une toile de jute. Et en fait, bon, il y a beaucoup de phrases dans votre livre, quand même. Mais le fait que vous ayez une pensée réflexive sur le moment où vous l'écrivez, de dire que vous auriez peut-être essayé ou aimé qu'elle soit autre, mais que c'est comme ça qu'elle doit être, nous dit aussi tout ce qu'il y a de l'aventure de la langue quand vous vous lancez dans cette écriture. C'est-à-dire, bien sûr, il y a la transmission d'une histoire, l'engagisme. Bien sûr, il y a faire exister des êtres de chair, partir d'archives. On n'a pas parlé de ces numéros, de l'Institut d'archives où vous allez. Mais il y a aussi que vous le faites avec des outils, ça s'appelle des mots, et que vous avez une pensée sur ces outils-là. Alors peut-être nous dire en quoi est-ce que ce texte-là, il vous a amené justement au cordeau. Vous utilisiez tout à l'heure aussi l'idée de la simplicité.
Oui, mais il ne m'échappe pas que je suis la personne dans ma famille qui a ce moyen d'expression. Et il ne m'échappait pas non plus le pouvoir que j'avais, que c'était le pouvoir du récit. C'est-à-dire de commencer cette histoire-là là où je voulais. De les figer une autre fois, une deuxième fois. Et moi qui ai écrit jusque-là des fictions, je me disais, quand j'écrivais cette phrase-là, ma grand-mère accouchait toute seule, accroupie, sur une toile de jute, je me disais jamais je me serais contentée de cette phrase.
Pourquoi ?
Mais parce que j'aurais décrit la toile de jute, j'aurais décrit la pièce où elle était, j'aurais décrit son visage. J'aurais décrit son cœur, j'aurais décrit plein de choses. Mais là, cette femme dont on parle, je l'ai connue, très bien connue, je l'ai aimée, beaucoup aimée. Et je ne voulais pas, moi, dire à sa place ce qu'elle avait été à ce moment-là. Et puisque c'est elle qui a dit cette phrase-là, dont sa sécheresse même... Je me disais, elle doit suffire. Et il ne m'échappait pas non plus combien la langue française, cette langue-là, quand les mots sont choisis et sont justes, et la virgule qu'il faut, et l'adjectif qu'il faut, ça suffit amplement.
Je le disais, et vous le dites souvent dans votre texte, vous écrivez près de ces humains, cette grand-mère, mais aussi ce grand-père. Il y a une scène importante, c'est une scène où il dit non.
Ton grand-père n'a peur de personne. Ton grand-père sait se battre. Attention, ton grand-père est colérique. Ton grand-père est vif. Il ne faut pas se laisser berner par le côté timide de ton grand-père. Une seule claque de ton grand-père et tu es KO. Personne ne cherche noise à ton grand-père. La couleur de l'agressé et son statut étaient parfois mentionnés. Le blanc, le patron, le bourgeois. Blanc là, patron là. Bourgeois là, et selon le ton de la phrase, on pouvait l'interpréter différemment. Ton grand-père a eu la bêtise, lui le laboureur, de s'attaquer à son patron. Qu'est-ce qui lui a pris, lui le descendant de coulis, de s'attaquer à un blanc ? Ton grand-père a eu le courage de faire ce que d'autres, avant lui, ont tant rêvé de faire. Il lui a dit non, il lui a dit « ferme ta gueule ».
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Natacha Apana, un extrait de votre texte « La mémoire délavée » lu par Jeanne Aléos, sont des mots qui sont dits pour raconter cette scène, la scène où votre grand-père dit non, il se révolte, et qui est une scène qui a beaucoup de conséquences. Je me suis interrogée sur les traces que ça avait pu laisser. Comment est-ce qu'on peut sentir que ce non, ce refus qu'il fait au patron, peut-être a, je sais pas, a été transmis jusqu'à vous.
Et moi, c'est un nom que dont j'ai eu connaissance tard. Parce que son geste d'insubordination, son incarcération et son expulsion de la plantation, ce sont des choses dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à, je dirais, peut-être à la fin de mon adolescence. Et je comprenais à ce moment-là comment il était, même la manière dont il se tenait, comment il bougeait dans son grand corps de plus d'un mètre 85, mais il bougeait de manière tellement précautionneuse, de manière tellement discrète, que je comprenais que son mise au banc l'a marqué de manière très profonde. Après, j'ai compris plein de choses sur moi aussi.
C'est aussi pour ça que je vous adresse cette question, parce que on pourrait déployer plein de choses à partir de votre livre-là, mais je trouve que cette femme qui accouche dans une telle confiance de son corps et cet homme qui dit non, ça semble être comme aussi deux scènes qui palpitent assez fort dans votre texte, Natasha Pana.
Oui, mais vous voyez, Marie, j'aurais aimé qu'on me les dise, ces histoires-là, quand j'avais 10 ans. Je pense que j'aurais eu beaucoup plus de courage, j'aurais eu beaucoup plus d'envie, d'enthousiasme. Et il me semble que c'était en moi, mais que j'ai dû gratter beaucoup avant de comprendre ça. C'est le cas de mon frère aussi. Hein. Je vois son parcours, nous avons des parcours qui sont pas habituels. Il ne m'échappe pas que je fais un métier qui est très loin de celui pour lequel on m'a préparé, que j'écris dans une langue que mes grands-parents n'auraient pas compris. Et donc, il ne m'échappe pas à ces choses-là. Donc, je vois bien que ces noms-là et que cette confiance-là, qui ont été perçus comme étant des choses à cacher, en réalité, ça aurait été une telle force, un tel élan à nous donner, un tel souffle. Mais nous l'avons gratté, hein. Finalement, nous l'avons trouvé.
Dans ce texte-là, par exemple, la mémoire délavée, c'est vrai que ce geste de gratter presque comme des archéologues, c'est celui que vous faites, Natasha Pana. Alors, on le disait, ce book club, il choisit, mais presque artificiellement, en fait, une sorte de territoire commun aujourd'hui qui serait l'île Maurice. Je dis artificiellement non seulement parce que finalement la géographie de vos deux textes est bien plus large que l'île Maurice, mais aussi parce que vous le disiez en introduction, Natasha Pana. Un territoire de départ peut donner des textes extrêmement différents. C'est le cas de votre texte « Le jour des caméléons » paru aux éditions Grasset. Bonjour Ananda Devi. Est-ce que vous m'entendez ?
Merci de m'accueillir. Oui, oui, je vous entends.
Merci d'être avec nous par téléphone. On a fait parvenir une première question à Natasha Pana de la part d'un lecteur, auditeur de la communauté du Book Club. Je voudrais qu'on écoute, pour vous accueillir, à la fois une question d'une lectrice, auditrice, Virginie, suivie d'un extrait de votre texte.
Bonjour le Book Club, bonjour Ananda Devi. Ce qui me plaît dans votre œuvre, c'est votre écriture qui est à la fois directe, violente et poétique. Mais c'est aussi l'intérêt que vous portez au corps, des corps qui peuvent être monstrueux, emprisonnés ou du moins empêchés. Des corps violentés, mais bien souvent ces corps sont aussi désirants. Et on retrouve ces éléments dans votre dernier livre, Le jour des caméléons, à travers les différents personnages, mais surtout en donnant voix à l'île Maurice, vous lui donnez également un corps d'une grande beauté par sa multiculturalité, mais un corps qui est aussi ravagé, défiguré, gangréné par la violence. Du coup, ma question, c'est pourquoi avoir donné une voix, un corps à l'île Maurice pour ce dernier livre, et de façon générale, qu'est-ce qui anime votre corps d'écrivain à parler du corps des autres ?
Bannis de ce pays qu'ils ont bâti de leurs mains, ce petit pays au masque bleu, vert et or, ce petit paradis ensoleillé, ensablé, nappé de sirop de canne, ce si joli petit pays devenu un ventre grouillant de verre, comme les filaos rongés par les rhinocéros, une bouche grande ouverte gobant les arrivées d'argent depuis les égouts du monde, car tant de mains sont là pour les blanchir et dorloter les riches, ces véritables enfants, qu'ils aient reçu la terre en héritage de leurs aïeux, qu'ils se partagent le moelleux gâteau colonial sur le dos des esclaves à genoux, qu'ils aient accumulé des milliards en plongeant leurs mains enduites de glu dans les caisses publiques, qu'ils aient construit des hôtels avec le ciment sanglant de l'apartheid, peu importe. Ce petit pays aime leur goût de pourriture sucrée. Ils ont perdu leur chance d'être autres et uniques. Un champ égaré au tournant du monde, la rémanence d'un espoir lointain, bien trop lointain pour leur mémoire, lorsque le premier homme fut à même de lever le regard pour contempler l'horizon. Ce virus humain, entré dans les veines de ma pierre, je le rejette.
C'est la voix de Lille elle-même qui est lue par Jeanne Aléo. C'est un extrait de votre roman Le jour des caméléons, Ananda Devi. Et juste avant, la question adressée par Virginie via l'Instagram du Book Club de France Culture. Comment ou pourquoi avoir choisi une force narratrice du côté de la Terre, Ananda Devi ?
Merci pour cette question déjà. Et oui, c'est tout à fait. Je repense au mot de la question, le corps désirant et violenté. Et je crois que c'est un peu ça qui a porté déjà tout mon travail, mais également pour ce roman-là où j'avais tellement parlé de l'île, de ce désir et de cette violence qui en ressortent, qui en naissent. Que cette fois-ci, pour écrire ce roman qui est quasi apocalyptique, qui peut-être se passe dans un futur proche, mais un futur qui est une sorte de fin annoncée, il m'a semblé que là, cette fois-ci, il fallait vraiment faire entendre la voix de Lille par rapport à ce qu'elle appelle justement, on vient de l'entendre, le virus humain. C'est-à-dire que c'est une île née d'éruptions volcaniques, mais il y a plusieurs dizaines de millions d'années, mais que dès l'arrivée de l'homme, il y a moins de 4 siècles, le processus de destruction commence avec sa faune et sa flore, dont il ne reste quasiment plus rien d'endémique. Et donc, c'est cette petite histoire courte, mais d'une violence inouïe, également une violence sociale, qui font qu'à un moment donné, j'ai eu envie effectivement de donner voix à Lille après tant d'années d'écriture, tant de romans et tant d'amour pour mon pays, mais aussi pour ce qu'elle nous dit du monde actuel.
Oui, c'est une île qui dit « je voudrais rejeter ce virus humain de la pierre » et dans un prologue, voilà, il y a aussi toute cette force des caméléons, ces fameux caméléons qui changent et qui présentent les humains comme une force très, très négative. Je reviens à la question de Virginie et l'idée d'une narration du côté de l'île. On parle souvent de la possibilité de trouver la justesse pour une voix de personnage, pour une langue de personnage. Comment on trouve la justesse pour une île qui parle à Nantes d'Adévi?
C'est un peu un mystère, une énigme pour moi aussi, mais ça vient vraiment dans le processus d'écriture, c'est-à-dire qu'au moment où je commence à pénétrer dans un texte, je ne sais pas toujours qui raconte cette histoire. Et à un moment donné, le jeu commence à être animé, je dirais, dans le sens fort, par une présence, par une puissance aussi. Et parfois, c'est un personnage qui se dessine, mais là, cette puissance-là, elle me semblait vraiment venir de la pierre et de la terre, et qu'il y avait une sorte à la fois de tristesse, mais de grande colère à propos de ces déprédations des hommes que l'on voit s'installer et s'amplifier presque sous nos yeux. Et donc, à un moment donné, j'avais envie de dire il faut arrêter ça, mais j'avais envie qu'elle dise, que ce soit Lille qui le dise. Et ce n'est pas facile, évidemment, parce qu'en même temps, elle a une présence, une voix qui commente beaucoup la société. Et en même temps, elle parle à partir d'une hauteur qui fait qu'elle sait que tout même si l'humain disparaît un jour, elle restera, elle demeure. Et donc, il n'y a pas de crainte dans cette voie, mais plutôt une observation de la destruction annoncée, de comment nous avons raté notre chance de faire vivre ce qu'elle appelle un petit miracle sur cette terre qui réunit tant d'identités.
Oui, d'ailleurs, vous parlez d'une auteure.
Couleurs.
On pourrait presque parler d'une autorité. Elle a cette voix. Votre livre est construit de telle sorte, Ananda Devi, que nous allons de voix en voix. Tantôt c'est Zig-Zig, ce chef de bande. Tantôt c'est Sarah, une petite fille. Tantôt c'est René. Donc à chaque fois, on entre, souvent d'ailleurs presque dans leur tête, de la même manière qu'on pourrait presque entrer dans la terre de l'île Maurice. Mais cette autorité, la conscience, c'est un peu étrange de dire ça comme ça, mais la conscience que l'île demeurera au-delà de toutes les destructions humaines, ne l'empêche pas d'appeler les humains les prédateurs. Elle a comme ça une sorte de regard sur la violence à l'œuvre de la part des humains. Peut-être dire un mot de ces fameux caméléons qui arrivent dès le début, quand on ouvre le livre, et même dès le début, par le titre et à la fois par le prologue. Ce serait quoi, une force de quoi, ces caméléons ?
Je pense une force de résistance, mais une résistance qui serait aussi un renouveau. Alors, ils agissent presque comme un chœur antique, dans le théâtre antique. D'ailleurs, tout le roman lui-même respecte un peu ces règles du théâtre classique, d'unité de temps, de lieu et d'action. Et pour moi, ces caméléons qui arrivent, ils sont justement ceux qui écoutent le vent, ceux qui écoutent le chant de la terre, qui sont adaptables, eux. Donc les couleurs, ils peuvent prendre toutes les couleurs, donc ces questions d'identité ne les préoccupent pas, mais et ils attendent la fin de l'homme pour pouvoir prendre sa place, mais d'une manière différente, et de pouvoir reprendre leur place avec respect et révérence pour la terre. Donc ils sont à la fois les observateurs et peut-être les futurs héritiers. Donc quelque part, peut-être pour l'île, c'est un espoir qu'il y aura toujours cette espèce de renouveau, que la vie elle-même ne s'interrompt pas vraiment, qu'elle va continuer sous d'autres formes.
En vous écoutant, Ananda Devi, et peut-être en extrapolant, on peut considérer que ces êtres-là, ces êtres vivants que sont les caméléons qui arrivent, qui peuvent regarder autrement le sol sur lequel ils arrivent, s'adapter, ne point être emprisonnés dans les identités. Ça me fait quand même penser à toutes les histoires de migration que nous avons évoquées avec Natacha Apana et l'idée que il y a comme un renouveau si on parvient à regarder le mouvement incessant des hommes et l'histoire incessante de leur migration, et à considérer qu'il y a dans les êtres qui se déplacent, qui arrivent et qui repartent, une chance pour la Terre.
Absolument, j'en suis persuadée, étant évidemment comme Natacha moi-même issue de ces migrations, ça a été l'histoire de la Terre en fait, et je les vois comme des passages qui vont ensemencer en fait, partout où on va, chaque peuple a ensemencé la terre et les lieux et la société, les communautés, avec une autre forme parfois de pensée, une autre forme de richesse culturelle et spirituelle. Et bon, je ne dis pas que tout est idéal, mais toutes les sociétés sont, en fait, toutes les sociétés sont mêlées, sont hybrides. Et je crois que les êtres eux-mêmes sont hybrides, et donc de se réfugier derrière une espèce de d'illusion de je sais pas d'une quelconque pureté raciale, géographique, économique et religieuse, etc.
On est une chimère.
On sait pertinemment quelle dérive à quelle dérive cela a mené, mais on continue à entendre les mêmes discours, et ça c'est vraiment vraiment effrayant, je trouve, parce que ces portes fermées, ces murs élevés, ils vont nous enferme chacun conduire à plus de violence.
Ça me fait penser à ce que vous disiez, Natacha Apana, sur le fait d'écrire contre l'incarcération aussi, contre les prisons. Difficile de ne pas lire votre texte en pensant aux bateaux du présent, aux hommes et aux femmes qui prennent des bateaux parce qu'ils imaginent qu'une autre vie est possible ailleurs, qu'une meilleure vie est possible ailleurs.
Oui.
Difficile de ne pas lire votre livre avec un tel écho à l'actualité, en réalité.
Oui, j'espère en tout cas, mais moi je l'ai écrit comme ça, parce que ça fait plusieurs années que j'y pense, et que je me dis, mais ça ne fait que se répéter. Et tant qu'il y a des mères, et tant qu'il y a des hommes...
Les gens monteront sur des bateaux.
Les gens monteront sur des bateaux. Et c'est une phrase comme ça, mais en réalité, il y a toute une économie souterraine, secrète, qui se fait, parce que ceux qui font des bateaux, ceux qui construisent des bateaux, ceux qui les détruisent ensuite, il y a des commerces, donc il y a de l'argent. Ce ne sont pas, l'argent se fait sur ces commerces-là, mais depuis la nuit des temps, l'engagisme, c'est une histoire, c'est une transhumance économique. Et aujourd'hui, l'immigration qu'on imagine tout à fait comme étant des migrations du désespoir, mais sont portées, moi j'en suis persuadée, par l'envie de trouver une vie meilleure, mais sont également des migrations où le poids économique est important.
Un grand merci à toutes les deux, Ananda Devi, à distance, d'avoir évoqué Le jour des caméléons, paru aux éditions Grasset, Natacha Pana, ici dans notre studio, La mer délavée, paru dans la collection 13 et portraits au Mercure de France.
La mémoire délavée.
Oh là là, la mer
mais
délavée.
Mais c'est beau aussi, la mer.
Merci à toutes les deux.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
En fin d'émission, nous recevons de la visite dans le Book Club pour élargir cette grande conversation autour des livres. Le mercredi, c'est avec vous, Mathilde Wagman, qu'on va regarder côté jeunesse. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui, vous nous parlez d'un livre qui a un lien souterrain avec le territoire qui lie nos deux invités aujourd'hui, l'île Maurice.
Oui, mais c'est un hasard total. Je souhaitais vous parler de ce livre avant même de découvrir qu'il avait un lien secret, en effet, avec l'île Maurice. Il s'agit d'un conte signé Véronique Ovaldé, également autrice de nombreux romans pour adultes, avec des illustrations d'Aline Zalco. Conte qui s'appelle « La nuit du dodo », mais rien à voir avec une histoire de sommeil. Le livre fait partie d'une série d'histoires parues dans une collection éditée par le Muséum d'Histoire Naturelle. Véronique Ovaldé a choisi de situer son récit dans le grand bâtiment principal qui se trouve au fond du Jardin des Plantes à Paris et où se trouve notamment la Grande Galerie de l'Évolution.
Et le gros squelette, je ne sais pas s'il y a encore, mais ça raconte quoi ce livre ?
Alors, c'est l'histoire de Bob, un petit garçon dont le père est gardien dans ce musée. Et lorsque son père ne trouve personne pour veiller sur lui, le petit garçon est censé passer la nuit dans la loge. Mais plutôt que de dormir, il préfère partir explorer le bâtiment. Or, et c'est la première phrase du livre, tout le monde sait que les animaux des musées se réveillent la nuit. J'ai été, dès ses toutes premières lignes, séduite par la promesse de cette histoire, sans doute parce qu'elle reprend ce principe narratif commun à tant de fictions pour enfants. La nuit, des choses étranges se passent, des objets prennent vie et seuls les enfants le savent. Cette idée de faire d'un personnage d'enfant le détenteur d'un savoir que les adultes, ses égarée non pas, et réjouissante presque par principe. J'ai aussi été d'emblée attirée par ce décor et forcée de constater que les musées d'histoire naturelle constituent celui de bien des fictions. Mais par exemple, revenu en mémoire le tout premier album des Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec de Tardy, et même sa toute première planche qui montre une salle du Muséum d'Histoire Naturelle où un soir de novembre 1911, la coquille d'un œuf se brise pour laisser éclore un immense ptérodactyle qui bientôt sème la terreur dans la capitale. J'ai pensé aussi à ce livre pour enfants, devenu fameux par la série de films qui l'ont porté à l'écran. Ça s'appelle « La nuit au musée », vous vous en souvenez peut-être, avec Ben Stiller, dans le rôle d'un gardien du musée d'histoire naturelle, mais de New York.
Alors, vous avez parlé d'une promesse, est-ce qu'elle est tenue, Mathilde ?
Oui, absolument, la suite ne m'a pas déçue. Au cours de ses promenades nocturnes, Bob observe les animaux vivre leurs petites affaires. Mais un animal l'intrigue en particulier, et pour cause, celui-ci, contrairement aux autres, ne parle pas, ne bouge pas. C'est un dodo, vous savez, ce gros oiseau aux toutes petites ailes et au très gros bec. Un soir de novembre, Hanuman, le grand cerf de Schomburg, lui explique la raison de ce silence. Ce dodo est une chimère, un animal reconstitué à partir d'autres espèces. Bob ne comprend pas bien les explications du cerf, mais alors, ce dodo, c'est un animal imaginaire, il est totalement inventé ? Pour lui expliquer, le cerf l'emmène dans la partie secrète du musée, ses réserves, au sous-sol. Et là, il lui présente un magnifique squelette de dodo, de vrai dodo. Le squelette, puisqu'il a été autrefois bien vivant, lui, est tout à fait bavard et il est d'ailleurs enchanté de recevoir de la visite. Tandis que Bob accepte de le promener un peu partout dans les étages, le dodo lui raconte son histoire. Lui et ses semblables vivaient dans la forêt, sur une île, depuis des millions d'années. Ils menaient une existence paisible, jusqu'au jour où, à la fin du XVIe siècle, des navigateurs européens débarquèrent avec dans leurs soutes des rats, des cochons, des singes. Tout ce petit monde trouva les dodos fort appétissants et c'est ainsi que l'espèce s'éteint.
Et c'est peut-être aussi grâce à cette histoire de bateau, Mathilde, qu'on retombe sur nos pieds avec l'île Maurice. Quel rapport ?
Eh bien justement, Marie, le rapport, moi je ne le savais pas avant de lire ce livre. Peut-être que nos auditrices le savent, mais l'île dont il est question, l'île sur laquelle ont vécu les dodos, eh bien précisément, c'est l'île Maurice. Raison pour laquelle le nom complet de l'animal est d'ailleurs le dronte de Maurice. Cela, on l'apprend aussi par un texte passionnant, situé en annexe à la fin du livre et signé Ben Warren, biologiste et responsable des collections d'oiseaux du musée. On y apprend aussi que le dodo n'est pas le seul oiseau à avoir subi le même sort. Sur l'île Maurice et les îles voisines de La Réunion et de Rodrigues, 37 autres espèces d'oiseaux ont disparu à la même période. Ce qui est beau dans cet ouvrage, c'est précisément la façon dont ces éléments de connaissance entrent en résonance avec le conte, le prolongent, dialoguent avec lui, imaginaire et science, main dans la main. Si les musées d'histoire naturelle et la littérature ont quelque chose à voir, c'est peut-être aussi que toutes deux mettent en scène des fantômes. Ces musées sont des mausolées, ils abritent des animaux morts et même disparus, mais par la grâce de la conservation ou du regard et des mots qu'on leur prête, ils reprennent vie. Dans un autre récit dont l'action se situait elle aussi dans la grande galerie de l'évolution, Éric Chevillard le soulignait déjà, la vie n'a pas quitté ses morts, ces grands animaux statufiés, figés dans leur cuir comme des pâtés en croûte, bougent encore.
Bon, débrouillez-vous pour aller la nuit dans un muséum d'histoire naturelle, il y en a partout en France. On rappelle le titre du livre, Mathilde ?
Ça s'appelle La nuit du dodo, c'est signé Véronique Ovaldé avec des très belles illustrations d'Aline Zalco.
Aux éditions du muséum d'histoire naturelle. Un grand merci, lecture jeunesse à réécouter sur franceculture.fr. À cette heure-ci, on joue le grand jeu des pages musicales dont je rappelle tous les jours le principe. Vous êtes en train de lire quelque part, vous croisez dans les pages l'évocation d'un air musical, vous prenez une photographie de ce paragraphe, de ces quelques lignes, vous nous l'envoyez via l'Instagram du Book Club de France Culture. Nous avons une collection, tous les jours nous plongeons dedans, nous nous amusons à créer quelques échos. Aujourd'hui, l'écho est magnifique, on est toujours du côté des oiseaux. La trouvaille, on la doit à Franciuti. Il a choisi un extrait du livre Éloge des oiseaux de passage, journal d'un ornithologue amateur. Paru en 2023 chez Humancis, c'est un livre de Jean-Noël Rieffel qui dirige aujourd'hui l'Office français de la biodiversité dans le centre de Val-de-Loire et qui est un grand ornithologue. Même si nous l'oublions fréquemment, le chant des oiseaux n'a de cesse de nous accompagner dans notre quotidien. Il nous relie aux sauvages, partout, même en ville. Qu'il s'agisse de la clameur marine du goéland au-dessus du fracas des vagues ou du chant mélancolique du merle au cœur de la métropole endormie. C'est la principale musique de notre monde, parfois tapageuse comme un coup de clairon, parfois discrète comme un secret murmure. À l'image du chant de la fauvette à tête noire dont les envolées tonitruantes flirtent avec les chorus exubérants de Louis Armstrong, mais qui sait autant se muer en une douce sourdine telle celle de la trompette de Miles Davis dans Ascenseur pour l'échafaud. Au son aujourd'hui, c'était Nicolas Bonnet à la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Jeanne Aléos, Oriane Delacroix, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Valentin Rémy, Didier Pinault et Léa Weisgruss. Très bel après-midi à toutes et à tous sur France Culture. N'hésitez pas à réécouter le Book Club sur franceculture.fr. Je fais les choses à l'envers. Ou allez voir du côté de la communauté via Instagram.